Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors ceci est donc un partage, même un peu consécutif au don de l'Esprit, qui veut aborder plusieurs lettres prophétiques qui circulent actuellement et des annonces qui ont été faites. Et je vais essayer de mettre tout ça ensemble pour qu'on voit clairement ce qu'on peut en tirer. On a enseigné pendant un certain nombre de semaines ici au Centre Chrétien, la parole de la foi, sur les dons de l'Esprit. Et nous avons bien compris que ça ne s'agissait pas juste de remplir notre tête, mais qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? En quoi ça nous sert? Donc on peut discerner et on peut voir. Et même j'ai eu cette pensée de quand l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, il dit « J'aime mieux dire 5 paroles avec l'intelligence pour que vous compreniez quelque chose que 10 000 paroles en langue et qu'on ne comprend rien ». Et donc là aussi, nous sommes maintenant dans un monde, la plupart des gens, même des gens qui sont éloignés dans toutes sortes de pays, ont un accès à cette banque de données, de connaissances qui est Internet, où maintenant vous avez les pires horreurs que le monde puisse proposer, et vous avez aussi des trésors de science et d'instruction, et dans le monde chrétien aussi. Vous avez toutes les fausses doctrines et toutes les horreurs et tous les faux prophètes. Et en même temps, vous avez d'excellents ministères qui présentent les œuvres qu'ils font et qui diffusent la parole de Dieu. Donc c'est une grande chose ouverte où on peut puiser dedans. Mais le problème, c'est maintenant que nous sommes tellement submergés par des infos qu'il faut constamment trier, discerner, de voir. Mais c'est pas nouveau, c'est simplement que nous vivons maintenant dans un siècle où tout est intensifié. Donc on reçoit tellement d'informations, je parle maintenant du point de vue chrétien, qu'il nous faut absolument être capable de voir est-ce que c'est utile pour moi, est-ce que ça fait partie de 10 000 paroles qui, à force d'en entendre et encore des prophéties par-ci par-là, ça ne me fait plus rien du tout, parce que je l'ai entendu, bah oui bien sûr, je connais déjà, je sais déjà, j'ai déjà entendu. Ou alors, est-ce qu'il y a encore des paroles où vraiment Dieu pourra nous toucher au travers de ça? Et on peut se rappeler dès à présent que l'Apocalypse commence par cette parole, que c'est une révélation, et quand il y a les différents messages aux églises, donc chaque fois revient que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et sept fois, cette église, et sept fois vous avez le même message. Donc, entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Vous faites partie de l'église? Donc, vous avez un message de la part de l'Esprit qui veut vous dire quelque chose pour aujourd'hui. Pour maintenant, alors vous pouvez dire à votre voisin, c'est pour toi, c'est pour maintenant. Il y a toujours un message. Quand dans un couple ou dans une famille, au bout d'un moment, on ne se parle plus, c'est qu'un problème. Sinon, l'amour cherche toujours à communiquer. On peut être une fois fatigué, pas avoir envie de faire des grands discours, on peut être occupé à différentes choses, mais s'il n'y a plus de communication, il y a un problème. Dieu veut toujours communiquer avec nous. Il y a toujours des choses à nous dire. Et nous, on doit aussi pouvoir avoir cette attitude de toujours, on a toujours quelque chose à partager avec lui, toujours quelque chose à lui demander, à lui dire merci, le louer, etc. Donc, il y a des choses que l'Esprit veut dire à l'Église. Il y a une lettre que j'ai reçue de Élie et Denise Yapougean, que nous connaissons depuis des années, que nous apprécions pour ce qu'ils font comme ministère dans le corps de Christ. Et donc, ils nous ont adressé cette lettre, et c'est un message qui a été dicté en anglais par le Seigneur à Rick Van Est. Il nous est dit tantôt d'une voix audible, tantôt intérieurement. Et voilà ce qu'on dit de cette lettre. Ce contenu garantit son authenticité. On va éprouver ensemble ce qui est communiqué. Cela est important car Vous comme nous, certainement, nous sommes inondés de courriels, de prophéties, des exhortations de toutes sortes. Et donc, on connaît cet homme. Et donc, on voudrait voir ensemble qu'est-ce que cet avertissement prophétique peut nous apprendre aujourd'hui. Donc, voilà le message. Ça commence par Maranatha. Maranatha, c'est cette exclamation qui dit... Voilà, le Seigneur vient. Maranatha, le Seigneur vient. Ça, c'est aussi la terminaison de l'Apocalypse quand il est dit l'Esprit et l'Épouse disent viens. Donc voilà le message. Mon Église, mon Épouse bien-aimée, voici un jour nouveau. Voici une nouvelle étape de mon agenda. Combien de fois on a entendu, c'est depuis des années que certains d'entre nous sommes chrétiens, que des prophéties disaient il y a un jour nouveau. Combien de fois? Mais finalement, chaque fois, Dieu est celui qui dit « Je fais toutes choses nouvelles. » Je ne fais pas toujours du réchauffé et encore, et toujours les vieilles choses. Et c'est lui qui dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau. » Et dans son calendrier, il y a des choses nouvelles. Donc, nous ne devons pas être étonnés de ça. « Je vous prépare à ce changement tout proche. Les choses terrestres vont être ébranlées, les choses du monde vont être secouées. » Seul ce qui est fondé, enraciné en moi, demeurera. Ça, c'est un message qui est à la fois nouveau et pas nouveau du tout. Parce que nous, ça fait des années que nous apprenons, d'après la parole de Dieu, que c'est la seule fondation solide pour notre vie. Ça peut être la parole de Dieu. Si nous avons lu même les évangiles, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Les choses terrestres qu'on croit tellement solides, inébranlables, elles sont ébranlées. Et il ne faut pas toujours vouloir rattacher à des annonces du Seigneur un événement de l'actualité. Hein. Tremblement de terre au Japon, tout de suite, voilà, c'est ce que la prophétie avait annoncé. Ça n'a des fois rien à voir du tout. Et même les gens qui ne croient pas en Dieu vont vous expliquer pourquoi, par le mouvement des plaques tectoniques, il y a eu un tremblement de terre, ou parce qu'il y a une faille, vous êtes d'accord avec moi? Et donc, on ne peut pas prouver des choses de Dieu de cette façon. Mais le monde, dans son système, va être ébranlé. Ensuite, le Seigneur dit, « Je suis en train de vous émonder. » Est-ce que vous avez remarqué ça dans votre vie? Si vous pouvez vous identifier à ça. Émonder, qu'est-ce que ça veut dire? Émonder. C'est un vocabulaire de jardinier. Oui, ou vigneron, quelqu'un qui s'occupe des plantes. Voilà, on coupe quelques branches pour qu'il y ait peut-être moins de fruits en quantité, mais en meilleure qualité. Et que l'ensemble de ce que l'arbre ou le fruit doit porter soit meilleur. Donc je suis en train de vous former, de vous entraîner, de vous façonner. Vous le voyez ça aussi, que vous êtes en formation, vous n'êtes pas en train de vous ennuyer. On ne peut pas s'ennuyer à l'église, ce n'est pas possible. Ou alors, on a décidé de s'ennuyer. On ne s'ennuie pas avec Dieu. On ne s'ennuie jamais. Il a toujours des choses à nous dire. C'est comme pour d'autres choses. Des fois, quand des enfants veulent s'ennuyer, c'est qu'ils ont décidé de s'ennuyer. Vous pouvez leur proposer tout ce que vous voulez et vous voyez qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de... On peut tous passer par là, pas content de quelque chose, mais... Il faut voir que nous sommes ici pour une raison, et nous sommes pas seulement là pour le travail, pour Dieu, mais nous sommes là pour grandir en lui, pour apprendre. Donc, se former, s'entraîner, être façonné, mais en vue de quelque chose, pour la plus grande moisson que le monde ait jamais vue et ne verra jamais plus. Donc, un certain nombre de choses ont été dites à ce sujet, et il y a des gens qui pensent qu'il y aura un grand nombre de personnes qui vont se tourner vers Dieu avant la fin de ce que nous sommes en train de vivre. Donc là, il faudrait chercher dans la parole de Dieu. La seule assurance que nous avons, c'est que Jésus a dit avant la fin, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, que tout le monde ait entendu. Donc nous croyons, en tout cas nous espérons qu'effectivement un grand nombre de personnes va encore entrer dans la famille de Dieu. Alors l'exhortation suivante, c'est le moment de devenir très sérieux avec moi. Il se peut que dans certaines circonstances, on se laisse aller, on peut avoir un moment de découragement, mais normalement la vie chrétienne commence de façon sérieuse. D'accord ? On ne peut pas venir à Jésus seulement à moitié. Soit on a compris ou on n'a pas compris. Vous êtes d'accord avec moi ? On peut des fois se tromper sur l'attitude de certaines personnes parce qu'elles ne sont jamais devenues enfants de Dieu. Elles ont plus ou moins adhéré à la foi chrétienne d'une façon intellectuelle. Mais une personne qui vraiment est née de nouveau, il y a un moment dans sa vie, il se passe quelque chose. Il est passionné pour Dieu, bouillonnant et bouillant. Et il veut être sérieux. Et donc, après, il se peut qu'il y ait un moment, à cause des événements de la vie, de découragement, de souffrance, etc., ou de distraction, on se relâche. Mais maintenant, nous avons cette exhortation, c'est le moment de devenir très sérieux avec moi. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont dites ici. À moins que vous ne marchiez tout près de moi. À moins que vous n'habitiez et ne demeuriez en moi, à moins que vous n'entendiez le cri de mon cœur, à moins que vous ne discerniez ma voix, à moins que vous ne me connaissiez plus profondément, à moins que vous ne vous approchiez davantage de moi. Donc, c'est toute une série de choses. Il y a maintenant une conséquence, si vous ne faites pas ça, vous allez rater le bateau, vous raterez le bateau, vous raterez le tournant et vous raterez le temps de la préparation. Donc ici dans cette lettre, il dit un certain nombre de choses qu'on va rater. Avant de venir aux choses qu'on va rater, voyons un peu qu'est-ce qui est dit. Quelles sont les conditions ? Marchez tout près de moi. Qui est pour, qui est contre? Qui peut être contre quelque chose comme ça? Vous avez une exhortation où Dieu vous dit, il faut que tu marches tout près de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous est dit que c'est une prophétie, c'est un jour nouveau. Mais pour nous, il n'y a absolument rien de nouveau. Il y a peut-être quelque chose de nouveau pour quelqu'un qui est tout nouvellement interpellé. Dieu lui rappelle, si tu ne marches pas près de moi, il y a des choses qui ne marcheront pas. C'est pas un jeu de mots, c'est juste comme ça. À moins que vous n'habitiez et vous ne demeuriez en moi. Normalement, l'union du chrétien avec Jésus, elle est totale. Il demeure en moi. Pourtant, Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mais je ne vois pas comment on peut être enfant de Dieu, être le temple du Saint-Esprit et que Jésus ne demeure plus en moi. Enfin, je ne comprends pas. Mais donc c'est une exhortation à être proche de Dieu, ça on l'a compris. À moins que vous n'entendiez le cri de mon cœur. Normalement, il y a un cœur à cœur avec Dieu. Mais il se peut qu'on ait un moment où on n'écoute pas. C'est possible. C'est triste, mais c'est possible. Il faudrait prendre le temps alors d'écouter le cri du cœur de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Et je me rappelle... Quelqu'un donnait cette illustration. Il disait, quelle est l'annonce de l'Église? Qu'est-ce qu'on annonce dans l'Église? À votre avis, qu'est-ce qu'on annonce? Le salut en Jésus. Je vous aide un petit peu, hein. D'accord? Si l'Église n'annonce pas le salut en Jésus, elle perd sa vocation. Quelqu'un dit, c'est comme si quelqu'un avait une concession automobile. Il a un concessionnaire, on va pas rentrer dans les détails techniques, un concessionnaire, c'est quelqu'un qui a une autorisation officielle de vendre les véhicules de telle marque. Ça lui confère un certain nombre d'avantages. Si maintenant on lui accorde la concession, d'accord? On va faire un peu de publicité, allez, on va dire le Peugeot, d'accord? Donc, si quelqu'un a un concessionnaire Peugeot, et il a donc obtenu la concession, il a le droit de vendre des véhicules Peugeot, et ça lui confère un certain nombre d'avantages. Mais admettons que maintenant quelqu'un de la direction de Peugeot vienne dans son garage, regarde les voitures qu'il vend, et ne voit là aucune Peugeot. Il dirait, il y a un problème là. On vous a donné un certain nombre d'avantages, vous faites partie de notre réseau, c'est un avantage pour vous, et je ne vois qu'il n'y a aucune voiture de notre marque qui est proposée aux acheteurs. Maintenant, donc c'est un exemple très matériel. Maintenant venons à l'Église. Si maintenant le Seigneur qui est le chef de l'Église, il vient et voit que dans l'Église, on propose toutes sortes de choses, sauf l'essentiel, qui n'est pas un produit, mais qui est l'annonce du salut en Jésus. Que si vous croyez en lui, que vous êtes né de nouveau, etc., vous pouvez avoir la vie éternelle. Donc, il y aurait un problème, comprenez ? Donc, il faut revenir à l'essentiel. Il se peut alors qu'on doive entendre quel est le cri du cœur de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important pour lui. Et en disant certains exemples, je ne suis pas du tout contre ce qui se pratique dans les églises, mais qu'est-ce qui est le plus important ? C'est de construire un bâtiment magnifique, soit très haut, visible par tous, que dans certains endroits, surtout que les fauteuils soient bien confortables, qu'il y ait l'air conditionné, la clim, plein de choses. On peut rajouter tous les détails que vous voulez. Mais l'essentiel, ce qui importe pour Dieu, c'est est-ce que l'évangile est annoncé et est-ce qu'on met en pratique les choses qu'il a dites, de, par exemple, s'occuper réellement des besoins des gens. Ou est-ce qu'on s'occupe juste de construire des nominations, de veiller au bien-être des gens? Non, on a une mission à accomplir. L'Église a une mission. À moins que vous ne discerniez ma voix, entendre la voix de Dieu. Et vous rappelez cet avertissement en hébreu, il est dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. À moins que vous ne me connaissiez plus profondément. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dans l'épître aux Philippiens, il avait dit « Ce que je désire, c'est connaître Christ ». Il voulait encore connaître Christ. Donc, il se rendait compte, il n'y a pas un état, on peut dire, ça y en est arrivé. Nous devons tous avoir le désir de connaître Christ plus profondément. Ok ? À moins que vous ne vous approchiez davantage de moi, donc s'approcher, je pense, c'est encore un peu, toujours tant... C'est un langage un peu imagé, un peu religieux, qui veut dire un certain nombre de choses, mais ça n'a pas de réalité spirituelle. On n'est pas loin de Dieu, sinon on n'est pas chrétien. D'accord ? Donc, rater le bateau, je ne vois pas exactement ce qu'il voulait dire. Je retiens juste l'idée générale, vous allez rater quelque chose, hein, mais sinon il n'y a pas de bateau à prendre prochainement. À moins qu'on considère que l'arche était une sorte de bateau. Mais nous, par le salut en Jésus, nous sommes dans l'arche de Dieu, d'accord ? C'est les incroyants qui sont à l'extérieur. Rater le tournant, on peut toujours rater des choses. Donc il y a un temps de préparation, retenons l'essentiel, c'est un temps de préparation. Pour qu'on puisse avoir, parce que sinon ils disent, alors vous n'aurez plus ma protection, mon équipement, mes instructions. C'est toutes les choses que nous cherchons auprès de lui, dont vous aurez désespérément besoin dans les temps qui viennent. On essaye, depuis un moment, j'avais souvent entendu ça, comme si les temps devenaient plus difficiles. Vous croyez que c'était facile il y a 2000 ans, quand les gens habitaient dans l'Empire romain, et que vous disiez, mais c'est qui est Christ ? C'est qui est roi ? C'est Christ ou c'est César ? Ben, c'est Christ, bon, hop, dans les arènes. Tu vas voir les lions, ou tu vas être gladiateur, ou autre chose. Donc on ne peut pas dire, maintenant viennent des temps difficiles. Il a toujours été difficile dans le monde de tenir bon pour Christ, de ne pas renoncer à certaines choses que nous avons besoin de rester ses témoins. Il y a actuellement dans le monde des gens qui doivent vraiment choisir entre leur propre vie ou renier la foi. Mais moi je suis persuadé que nous avons toujours besoin de rechercher sa protection, son équipement, ses instructions. Maintenant s'il nous dit ici, au travers de ce message, que nous en aurons encore plus besoin dans les temps qui viennent, je ne peux que vous encourager à vous préparer. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, il n'y a pas réellement d'éléments nouveaux dans ces choses. Mais on ne va pas dire que ça vaut rien, on n'en a pas besoin. Peut-être quelqu'un en a désespérément besoin. Et nous, on peut toujours l'utiliser pour se faire un petit check-up, pour voir est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai des points que je dois encore corriger. Donc il est dit ici, continuez à chercher ma gloire. Ça, nous le voyons clairement aussi. Il faut chercher la gloire de Dieu. Moïse, Moïse disait dans son expérience, il disait « Fais-moi voir ta gloire ». Il recherchait des choses toujours plus grandes dans ses expériences avec Dieu. On ne doit pas se contenter en disant « Oh, j'ai déjà expérimenté il y a 15, 20 ans quelque chose avec Dieu. » Oh non, ça suffit. Plus que la moyenne. Donc, poussons toujours plus loin. Continuez de chercher ma gloire. La gloire de Dieu, c'est pas forcément une expérience spirituelle ou mystique non plus, hein. La gloire de Dieu, c'est chaque fois que Dieu se manifeste dans ma vie. Puisque Jésus disait à Marthe, en présence de la mort, dans l'histoire de la mort de Lazare, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À ce moment-là, il n'est pas dit, et Marthe, tout à coup, vit briller une lumière ou quelque chose. Comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que Lazare sortait. C'était ça, la gloire de Dieu. Il n'y a pas eu de lumière et de rayonnement. Je ne suis pas contre les expériences. Mais la gloire de Dieu, c'est Dieu répond. C'est aussi la gloire de Dieu. Une guérison, une délivrance, un exaucement. Tout ça, c'est de la gloire de Dieu. Donc, cherchez tout ça. Cherchez à voir se manifester la gloire de Dieu. Continuez à demeurer vivre dans ma gloire. Pour devenir mon épouse, alors soit on est l'épouse ou on l'est pas, là c'est toujours un peu compliqué pour moi de suivre quelqu'un comme ça, à moins que ce soit rattaché à la suite. Devenir mon épouse pleinement engagée, puissante, équipée et pure. Donc là, il y a aussi les choses qui dépendent de Dieu et celles qui dépendent de nous. On peut jamais en faire trop pour Dieu. Je parle pas d'être illuminé, de faire n'importe quoi, mais trop pour Dieu. Il faut que mon épouse devienne dangereuse dans une pareille époque. Il y a des mots dangereuses parce que il y a un combat à mener. On peut pas toujours être là. Oh, je suis la petite brebis du Seigneur. Non, des fois il faut se lever face au diable aussi, hein. Et Jésus est à la fois l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Judas. Sachez bien que c'est pas le diable qui est le lion, hein. Il veut juste rugir comme un lion pour faire semblant qu'il est un lion. Mais il ne l'est pas. Il n'y en a qu'un. C'est le lion de la tribu de Judas. Donc, seuls resteront ceux qui sont fidèles et obéissants, qui me donnent la première place dans leur cœur. Toujours, on est invité à donner la première place à Dieu. On l'a entendu des centaines et milliers de fois. Mais oui, mais on a encore besoin. Tous les jours, il faut de nouveau le mettre à la première place. Ceux-là continueront à accomplir ma volonté, réaliser mes plans, mes objectifs dans les temps à venir. Ceux-là seuls formeront ma puissante armée qui fera des exploits pour moi. Avertis ceux qui hésitent entre leur propre vie et la mienne, entre le monde et le ciel, entre la chair et la vie réelle, celle de l'esprit. Sachez bien que vous rappelez que dans les évangiles, Jésus a dit « Celui qui perdra sa vie, il la gagnera. » Ça ne veut pas dire il faut que tu donnes ta vie, c'est-à-dire que tu renonces d'exister et de vivre. Mais tu la gagneras, ça veut dire ta vie n'aura jamais eu autant de valeur, de sens, de qualité, de plaisir. Il est temps de devenir très sérieux avec moi. Appelle mon peuple à cette œuvre puissante. J'ai besoin de vous maintenant, dit le Seigneur des armées. Veux-tu devenir un donneur de vie? Es-tu prêt à payer le prix? Veux-tu m'aider à établir mon royaume? Mon précieux enfant à moi. Voilà le message qui a été donné par Rick Van Est, qui a été traduit de l'anglais. Et donc, une autre prophétie nous est donnée, elle est un peu longue, je ne sais pas combien de temps on pourra partager là-dessus, mais c'est un songe de David Wilkerson, qui est daté du 15 février de 2011. Et donc il dit « Être prêt n'est pas une plaisanterie ». Donc à nouveau, il y a certains éléments de préparation, de que c'est le moment de faire un tri. Donc je vais vous dire, vous pourrez lire en détail toute cette lettre et tout ce songe, sachant que cet homme, David Wilkerson, est décédé depuis, hein, au mois d'avril. Et donc c'est quand même un serviteur de Dieu remarquable qui a été employé par Dieu pour faire des choses extraordinaires, surtout dans tout ce travail qu'il a fait à New York dans les années, je ne sais plus quand exactement, 70 environ, peut-être même un petit peu avant. C'est ce qui a donné l'histoire de la croix et du poignard, avec la conversion du chef de gang, Nicky Cruz, des choses comme ça. Ça a été une grande œuvre aussi au niveau des drogués, avec Teen Challenge et des choses comme ça. Et donc, David Wilkerson raconte un songe qu'il a eu. Et là encore, comme dans ce que je disais sur les dons spirituels, il y a ce qui vient de Dieu et il y a ce qui passe au travers de nous. Et ce qui passe au travers de nous est alors, des fois, ce n'est plus le message parfait tel que Dieu a pu le donner. Mais c'est aussi nos impressions, notre culture, notre formation qui passe par là, peut-être nos aspirations et d'autres choses. Donc nous voulons pratiquer maintenant la parole de Dieu qui dit observez toutes choses et retenez ce qui est bon. Retenons l'essentiel, comme dans le message sur l'église avant. Donc il dit que, voilà, il fait une prière, il dit j'ai reçu un songe, je dois le partager et tout ça. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, parce que nous avons aussi à notre disposition cet excellent livre de comprendre la fin des temps de Bob Byandian, que je vous recommande de lire et même de relire des fois, parce qu'il explique vraiment une foule de choses qui est une grande confusion chez beaucoup de gens. Déjà, David Wilkerson parle de l'enlèvement de l'Église. Donc il est très important que ça soit clair dans notre esprit. Qu'est-ce qui est l'enlèvement de l'Église? Quand se situe la tribulation et quel est l'avènement du Seigneur? Il y a un jour qui est appelé le jour du Seigneur. Vous savez lequel c'est? Bah, déjà, c'est pas le dimanche, hein. Parce que dans notre culture catholique, les gens disent le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Parce que, on fait un petit peu d'histoire, les Juifs se rassemblant le samedi, les premiers chrétiens se rassemblaient le sabbat, puisqu'ils étaient hébreux, juifs, et en plus, ils se rassemblaient le dimanche, c'est-à-dire c'était le jour de la résurrection. Mais il n'a jamais été dit que le sabbat était transposé au dimanche pour que l'Église du Nouveau Testament en fasse un jour particulier. Donc, ça a donné que ce jour s'est appelé le jour du Seigneur. Ensuite, dans la Bible, finalement, le jour du Seigneur, c'est un jour où Jésus se manifeste pour son avènement. Son avènement, ça veut dire son retour visible où tout œil le verra. Il nous est dit dans la parole de Dieu, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui voulaient rien savoir de lui, même ceux qui étaient ses adversaires. Donc il est important pour nous qu'on ne confonde pas les deux. Et alors que l'enlèvement de l'Église, qui est expliqué surtout dans les épîtres, on n'en parle pas dans les évangiles. C'est bien simple, on n'en parle pas. Et donc, là, déjà, c'est une grande source de confusion, parce que dans Matthieu 24, il nous est dit « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour l'autre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous n'y penserez pas. » Les disciples, ils étaient avec cette question « Mais Seigneur, quand est-ce que tu viendras pour établir ton royaume ?» C'était ça leur question. Quand est-ce que tu viendras? Et donc, Jésus leur donne plusieurs réponses. Il dit, premièrement, c'est pas à vous maintenant de régler cette question du jour. Donc, tous ceux qui font des prévisions sur les jours, déjà, sont souvent trompés. Et il dit, donc, l'important pour vous, c'est de se tenir prêt et de prier. Veillez. Soyez pas endormis. Ne soyez pas ramollis spirituellement. Veillez et priez. Donc, ça, c'est toujours valable. On ne peut être que d'accord. Mais, donc là, il parle d'un certain nombre de choses et il dit qu'il a expérimenté dans son songe un enlèvement, une multitude de personnes qui montaient et il dit, il ne donne pas un enseignement. Il est en train de dire que alors que lui montait, il voyait des gens qui n'arrivaient pas à monter. Ils étaient coincés, pourtant c'était des gens qu'ils pensaient qu'ils étaient chrétiens, d'autres c'était des gens qui étaient des amis proches. Et il a souffert intérieurement de voir ces gens ne sont pas en train d'être enlevés. Alors, il prend à nouveau la parabole des vierges sages et des vierges folles. Ça ne s'applique pas à l'enlèvement. Il y a une confusion, et là, il y a un certain nombre de choses très intéressantes dans ce livre de comprendre la fin des temps. Et plus loin, on dit aussi... Voilà, encore quelque chose d'intéressant. Il donne une exhortation en disant Je sus à ce moment avec certitude que tous ceux qui s'appellent chrétiens et qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne vivent pas pour Dieu et qui se servent de la grâce comme prétexte pour vivre dans le péché, vivront ce que dit ce verset. Ce verset est devenu tellement réel dans mon esprit. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21 à 23. Et là j'aimerais quand même, nous ne sommes pas là pour encourager le péché, ni la paresse spirituelle, ni tout le reste. Mais il faut que vous compreniez que Matthieu a été, c'est l'évangile qui a été écrit aux Juifs premièrement. Les Juifs se persuadaient qu'ils étaient le peuple élu de Dieu. Le Seigneur est en train de leur dire, c'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur et tout ça, que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui font vraiment la volonté de Dieu. Il n'est pas en train de donner un enseignement en disant, celui des chrétiens qui n'aura pas obéi à tous les commandements risque de ne pas être enlevé. Vous voyez la différence? C'est ça qui est important qu'on comprenne. Nous n'avons aucun intérêt à enseigner des choses qui sont conformes à la Bible, même si on est bien intentionné, vous comprenez? On aimerait que tout le monde parte à l'enlèvement, qu'il n'y ait personne qui reste, qu'il n'y ait personne qui souffre la tribulation, etc. Mais on ne peut pas tout à coup utiliser des versets qui nous arrangent pour dire, allez, on va faire un peu peur là, parce que, attention, si tu ne fais pas tout ce qu'il faut qui est écrit dans la Bible, tu risques de ne pas être enlevé. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas juste quelqu'un qui t'appelle chrétien. Tu n'es pas juste un chrétien de nom. Tu es né de nouveau. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et donc, tu as cette destinée que lorsque Jésus vient, il cherche les siens. Il cherche son épouse. Donc, moi, je comprends ce qu'on veut faire par certains partages. Mais je ne peux pas dire... C'est Dieu qui a dit à David Wilkerson de nous dire que certains ne sont pas enlevés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important qu'on le réalise. Donc il dit qu'il voyait certains chrétiens qui semblaient endormis et il avait envie de leur dire sortez de la foule, sortez de la foule. Il y a une exhortation dans la Bible où il est dit sortez du milieu de mon peuple. Mais ça, c'est une exhortation pour le peuple de Dieu à ne pas vivre au milieu des péchés, de l'abomination, de tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Vous voyez, on ne peut pas alors transposer chaque fois. J'ai beaucoup de sympathie pour ce genre de messages qui sont donnés, qui veulent secouer les gens, qui veulent les réveiller, qui veulent dire, allez, engagez-vous pour Dieu. Mais on ne peut pas prendre les prétextes de la parole de Dieu n'importe comment. Apocalypse 19:7, il nous est dit que les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Donc il y a une préparation à faire. Mais quelle peut être alors cette préparation? À mon avis, on n'est pas trié par rapport à la préparation qu'on aura faite. D'accord? On peut vivre une vie qui est agréable à Dieu, c'est mieux, certainement. Mais... On ne peut pas prendre non plus le passage de Matthieu 24. Il nous est dit, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Là encore, c'est important de réaliser qu'est-ce qui est dit ici. Il n'est pas dit 50% vont partir et 50% vont rester. On dirait alors, de deux hommes qui sont assis dans le centre chrétien, un sera pris et l'autre sera laissé. Vous voyez, ça ne s'applique pas, c'est pas possible, c'est pas 50%. Il est simplement dit qu'à l'extérieur, vous pouvez avoir deux personnes qui apparemment sont dans la même circonstance, et l'un y part et l'autre non. C'est ça que ça veut dire, finalement. Et puis, bon, il parle de revêtir le corps glorieux, tout ce qui est conforme à ce que nous croyons, il nous est dit en un instant, dans un clin d'œil, il y aura cette transformation. Vous pouvez le lire aussi dans les épîtres. Donc, un peu plus loin encore, quelque chose de très troublant. Il dit à un moment, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il arrive avec tous ceux qui sont restés et qui n'ont pas été enlevés? Ceux qui sont restés en arrière et qui pensaient qu'ils étaient prêts, ils ne sont pas ici. Seigneur, que s'est-il passé avec eux? Ils sont perdus. Soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Si vous pensez être prêt, il faut savoir sur quelle base. Ou alors ce sont des chrétiens, ou alors ils sont perdus, voyez. Moi, je ne comprends pas quelle est cette confusion et quelle est cette chose qu'on veut partager là. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de critique dans le sens de dire c'est mauvais ou c'est une fausse doctrine, etc. Je pense que ça part d'un bon sentiment de vouloir vraiment secouer les gens, de vouloir les réveiller, mais on se donne des prétextes et des arguments et que ça ne marche pas. Ils auront des temps difficiles à cause de la tribulation, mais ce n'est pas la destination d'être perdu éternellement. Mais encore, je crois que ce qu'il voulait dire surtout, c'est prenez votre vie chrétienne au sérieux. Jésus revient, préparez-vous. Donc, là encore, il dit une chose globalement négative. Dieu m'a dit, mon peuple ne prend pas cela au sérieux. Ils en parlent, mais leur façon de vivre démontre qu'ils ne croient pas que je reviens bientôt. Peut-être effectivement, on a besoin de s'encourager à ça. Il revient. Et de le dire comme on le fait quand on prend la Sainte Cène, il dit chaque fois que l'on le fait, on annonce la venue du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. On peut dire, sans faire une plaisanterie à ce sujet, de dire chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, on est plus proche du retour de Jésus que la dernière fois qu'on avait pris. Hein? C'est pas parce qu'on l'a déjà fait et que ça ne s'est toujours pas accompli, il faut dire, il n'est toujours pas revenu. Ben oui, parce qu'on s'y approche, et il faut s'exhorter à ça. Et d'ailleurs, il cite Éphésiens 5, 27, « Il vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Alors moi, je crois que l'église va... Elle est ce qu'on a lu ici, elle est en train de le devenir à cause de tout ce qu'on permet à Dieu de transformer dans notre vie. Mais ce n'est pas en l'effrayant l'Église, en la menaçant qu'on arrive à ça, mais que ça doit être le résultat du désir de chacun de nous de se sanctifier. Et en parlant de sanctification, ça commence déjà par changer de mentalité, désirer certaines choses, mais la sanctification, c'est avant tout ce que le Seigneur disait, soyez saints comme mon Père céleste est saint. Et mon Père céleste, il est saint, ça veut dire qu'il est différent. Il est autrement. Il n'est pas comme les gens l'imaginent. Hein. Certains imaginent, c'est une sorte de Père Noël. Un vieillard, un peu gâteux, il est même absent, il fait jamais rien, etc. Rien n'est plus éloigné de ça, de la réalité de Dieu. Donc, il est saint, il est différent. Même on a des exemples dans la Bible, les anges sont là, ils disent saint, saint, saint et l'éternel, et à ce moment-là il se produit des choses extraordinaires autour du trône, il y a du bruit, de la fumée, il y a plein de choses qu'on n'imagine même pas nous. Et donc, je crois que c'est ce désir de chacun d'entre nous de connaître toujours plus Dieu, de vivre des choses avec lui, nous rend nous aussi saints, on est de plus en plus différents, hein. La pire insulte qu'on puisse faire à un chrétien, c'est de lui dire tu as pas changé. C'est-à-dire tu es toujours le même. Il devrait y avoir une évolution dans notre si tu as tendance à t'énerver facilement, avant ça te faisait 10 fois par jour, alors au bout d'un moment c'est plus qu'une fois par jour, après c'est une fois par semaine, et puis ensuite vous voyez, c'est ce que je crois, de gloire en gloire transformé par Dieu. On voit, tiens, quelque chose du fruit de Dieu est en train de grandir en toi. Donc on peut prendre encore d'autres choses qui sont importantes pour nous. Là, il y a un passage aussi, je crois qu'on va pas aller beaucoup plus loin, mais je voulais déjà commencer à partager ça avec vous. Il y en a beaucoup qui vont rester en arrière parce qu'ils ne se sont pas préparés. Là encore, j'ai dit au Seigneur, mais qu'en est-il de ta grâce, de ta miséricorde, de ton amour ? Et le Seigneur m'a dit, je suis tout cela, mais le temps de la grâce va bientôt prendre fin. Je ne sais pas si quelqu'un peut vraiment s'engager avec Dieu sur la menace que le temps de la grâce va prendre fin. Noé était un prédicateur de la justice. Avec 120 ans de ministère, il a converti zéro personne. Personne. Il annonçait la justice de Dieu. Personne n'a dit, ouais, Noé, je crois ce que tu as dit. Et il a juste sauvé lui sa famille. Et donc, moi je crois que nous devons présenter l'évangile tel qu'il est. Et que les gens puissent s'approcher de Jésus à cause de ce qu'il a fait pour eux. Et pas parce qu'ils ont peur que le temps de la grâce va bientôt être terminé. Ensuite, il prend un exemple en disant, voilà, un exemple de Zacharie 11, 10 et 11. Je pris ma houlette grasse et je la brisais pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là. Et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament avec un passage prophétique qui, je pense, ne se rapproche pas, ne concerne pas directement ce que nous sommes en train de voir. Même s'il y a des éléments pour la fin du temps dans les prophètes de l'Ancien Testament, bien sûr. Donc, on a ce passage qui est cité de Matthieu 5, 48. « Vous serez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et donc, ce qui nous aide à comprendre ça, je crois, c'est de comprendre le mot « parfait », non pas dans une perfection que nous aurions atteint, mais dans un développement, on a une plus grande maturité et on apprend comment se comporter en Dieu. Et ça, on le fait en appliquant ces principes du Nouveau Testament, Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et 1 Pierre 1, 15, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Donc on va s'arrêter pour cette lettre qui est encore plus longue que ça, mais je voulais déjà partager ça avec vous pour qu'on ait cette réflexion un petit peu, qu'on voit qu'est-ce que je peux en tirer. C'est trop facile à la fois de dire ça vient de Dieu, il faut tout accepter, ou alors je le rejette, j'accepte rien du tout. Je crois que c'est ce genre de lettre, surtout parce que c'est pas donné par n'importe qui, c'est pas un rigolo, hein, c'est David Wilkerson, pour lequel on peut avoir du respect à cause de tout le travail qu'il a fait pour Dieu. Mais on ne doit pas non plus tout accepter parce que c'est lui. Hein. Donc, que Dieu nous aide à discerner, continuer de chercher, d'entendre sa voix, de faire ce que la Bible dit, ne pas mépriser les prophéties, écouter, retenir ce qui est important pour nous, ce qui est bon. Et de plus en plus de grandir dans Hébreux 5 aussi. Il nous est dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, ce qui n'est pas très agréable à entendre. Vous devriez depuis longtemps être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous voyez, si on apprend quelques principes élémentaires de... Quand la Bible s'adresse aux juifs, quand elle s'adresse aux païens, quand elle s'adresse aux chrétiens, les choses ne sont pas les mêmes. Hein. On ne peut pas appliquer de façon unilatérale chaque verset à n'importe quelle catégorie. Donc les principes élémentaires qu'on a vus, juste en survolant un petit peu ce soir, des différences entre l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Seigneur, Israël, les chrétiens, c'est déjà pas du tout les mêmes choses. Et vous en êtes venu avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous avez le droit de discerner. Vous avez le droit de juger. Non pas les gens, on n'est pas appelé à juger les gens, mais on doit juger les pensées, les paroles, les idées qu'on... le diable essaie de semer de l'ivraie en nous, mais le Seigneur, lui, il sème la semence incorruptible de la parole. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.